Discours de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie. Deuxième partie. C'est une chose étrange d'entendre parler de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui se fait en tout pays, par tous les hommes, tous les jours, à savoir qu'un homme en dompte 100 000 et les prive de leur liberté, qui le croirait s'il ne faisait que l'entendre dire et non le voir? Et si cela ne se produisait qu'en pays étranger et en terre lointaine, et qu'on le racontât, se trouverait-il quelqu'un pour ne pas croire que cela fut feint et controuvé plutôt que véritable? Encore ce seul tyran, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le défaire, il est de soi-même défait, pourvu que le pays ne consente pas à sa servitude. Il ne faut rien lui ôter, mais ne rien lui donner. Le pays n'a besoin de se mettre en peine de rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent, ou plutôt se font maltraiter, puisqu'en cessant de servir, ils en seraient quittes. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être esclave ou d'être libre, quitte sa liberté et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le recherche. S'il lui en coûtait quelque chose de recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point. Et pourtant, qu'est-ce que l'homme doit avoir de plus cher que de se remettre en son droit naturel et, pour ainsi dire, de bête, redevenir homme? Mais encore, je ne désire pas de lui une si grande hardiesse. Je lui accorde d'aimer mieux je ne sais quelle sûreté à vivre misérablement qu'une douteuse espérance de vivre à son aise. Mais quoi? Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui l'estime encore trop chère, alors qu'elle la peut gagner d'un seul souhait, et qui rechigne à exercer sa volonté à recouvrer ce bien que l'on devrait racheter au prix de son sang, et qui, une fois perdu, fait que tous les gens d'honneur estiment leur vie déplaisante et la mort salutaire. Certes, de même que le feu d'une petite étincelle devient grand, et toujours se renforce, plus il trouve de bois, plus il est près d'en brûler. Mais sans qu'on y mette de l'eau pour l'éteindre, seulement en y mettant plus de bois, n'ayant plus rien à consumer, il se consume lui-même, devient sans force aucune et n'est plus feu. Pareillement les tyrans, plus ils pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur donne, plus on les sert, d'autant plus ils se fortifient, et deviennent toujours plus forts et plus frais pour anéantir et détruire tout. Tandis que si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans frapper, ils demeurent nus et défaits, et ne sont plus rien, si ce n'est à la manière d'une racine n'ayant plus d'humidité ou d'aliment, une branche devenue sèche et morte. Les gens hardis, pour acquérir le bien qu'ils demandent, ne craignent point le danger. Les avisés ne refusent point la peine. Les lâches et engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien. Ils se bornent à le souhaiter, et la vertu d'y prétendre leur est ôtée par leur lâcheté. Le désir de l'avoir leur demeure par la nature. Ce désir, cette volonté est commune aux sages et aux insensés, aux courageux et aux couards, pour souhaiter toutes choses qui, étant acquises, les rendraient heureux et contents. Une seule chose fait exception, pour laquelle je ne sais comment la nature fait défaut aux hommes pour la désirer, c'est la liberté, qui est toutefois un bien si grand et si plaisant que si elle vient à être perdue, tous les maux viennent à la file, et les biens mêmes qui demeurent après elles perdent entièrement leur goût et leur saveur, corrompus par la servitude. La liberté seule, les hommes ne la désirent point, simplement semble-t-il, parce que sitôt désirée, ils l'auraient, comme s'ils refusaient de faire le bel acquet, seulement parce qu'il est trop aisé. Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu. Pillez vos champs, volez vos maisons, et les dépouiller de vos meubles anciens et paternels. Vous vivez de sorte que vous ne pouvez vous vanter que rien ne soit à vous, et il semblerait que désormais ce serait un grand bonheur pour vous que de n'être que les gardiens de vos biens, de vos familles et de vos villes-vies sans les posséder. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous viennent non pas des ennemis, mais certes oui bien de l'ennemi et de celui que vous avez fait si grand, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, et n'a aucune autre chose que ce qu'a le moindre des hommes de toutes vos si nombreuses villes, si ce n'est l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie, si vous ne les lui donnez? Comment a-t-il pris tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il écrase vos cités, d'où les a-t-il s'ils ne sont les vôtres? Comment a-t-il un quelconque pouvoir sur vous, sinon par vous? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'avait aucune complicité chez vous? Que pourrait-il vous faire si vous ne receliez point le brigand qui vous pille, si vous n'étiez complice du meurtrier qui vous tue et traître à vous-même? Vous semez vos fruits afin qu'il les gâte. Vous meublez et remplissez vos maisons afin de fournir ses pillages. Vous nourrissez vos filles afin qu'il ait de quoi satisfaire sa luxure. Vous nourrissez vos enfants afin qu'au mieux il les mène en ses guerres, il les conduise à la boucherie, il les fasse administrateurs de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous tuez vos propres personnes à la peine afin qu'ils puissent se ravir en ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs. Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et plus ferme, pour vous tenir l'abri de plus serré. De tant d'indignité que les bêtes mêmes, soit ne les sentiraient point, soit ne les supporteraient point, vous pouvez vous délivrer si vous essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Soyez décidés à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l'ébranliez, mais seulement... ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse, à qui l'on a dérobé la base, de son poids même s'effondrer au sol et se rompre. Mais il est vrai que les médecins conseillent bien de ne pas mettre la main aux plaies incurables. Et je ne fais pas preuve de sagesse de vouloir prêcher en ceci le peuple qui depuis longtemps a perdu toute connaissance, et qui, puisqu'il ne sent plus son mal, montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons donc par conjecture, si nous pouvons en trouver, comment s'est enracinée si profondément cette volonté de servir, si opiniâtre qu'il semble maintenant que l'amour même de la liberté ne soit pas si naturel. Premièrement, il est comme je crois hors de doute que si nous vivions avec les droits que la nature nous a donnés et avec les enseignements qu'elle nous apprend, nous serions naturellement obéissants aux parents, sujet à la raison et esclave de personne. Concernant l'obéissance que chacun, sans autre avertissement que de son naturel, porte à ses pères et mères, chaque homme peut en témoigner pour soi. Concernant la raison, la question de savoir si elle naît avec nous ou non est abondamment débattue par les académiques et traitée par toute l'école des philosophes. Pour l'heure, je ne penserai point me tromper en disant qu'il y a en notre âme quelque naturelle semence de raison qui, entretenue par le bon conseil et l'habitude, fleurit en vertu et qui, au contraire, souvent, ne pouvant subsister contre les vices survenus, étouffée, avorte. Mais certes, s'il y a bien quelque chose de clair et d'apparent dans la nature, et où il ne soit pas permis de faire l'aveugle, c'est le fait que la nature, ministre de Dieu et gouvernante des hommes, nous a tous fait de même forme, et comme il semble, selon un même moule, afin que nous nous reconnaissions tous comme compagnons, ou plutôt comme frères. Et si partageant les présents qu'elle nous faisait, elle a fait quelque avantage de son bien, soit au corps, soit en l'esprit, aux uns plus qu'aux autres, cependant, elle n'a pas pour autant eu l'intention de nous mettre en ce monde comme en un champ clos, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts, ni les plus avisés, comme des brigands armés dans une forêt pour y brutaliser les plus faibles. Au contraire, il faut plutôt croire que faisant ainsi des parts aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle voulait faire place à la fraternelle affection, afin qu'elle eût où s'employer, les uns ayant la possibilité de donner de l'aide, les autres ayant besoin d'en recevoir. Puisque donc, cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a logés en quelque façon dans la même maison, nous a tous façonnés selon le même patron, afin que chacun pût se mirer et quasiment se reconnaître en l'autre. Si elle nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole pour nous rapprocher et fraterniser davantage et faire par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées une communion de nos volontés. Si elle a tâché par tous les moyens de serrer et étreindre si fort le nœud de notre alliance et société. Si elle a montré en toute chose qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un. Il ne faut pas douter que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons. Et il ne peut venir à l'esprit de personne que la nature en ait mis certains en servitude, puisqu'elle nous a tous fait membres d'une compagnie.
Ceasefire.
Ireland.
Freedom.
Freedom. Let's talk about freedom. Freedom! Let's talk about freedom. Freedom to choose, baby. Freedom to lose. Freedom to love who you want, baby. Freedom to love God above. God above, baby, come on! Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Freedom, yeah! About peace, freedom to scream about peace, freedom in the European East, baby, not just the European East. I want some freedom to smoke some herb,
smoke some herb.
I want some freedom to do what I want,
do what I want, baby.
Freedom to cry,
freedom to cry, freedom to lie, freedom to lie,
freedom of love, baby,
love, baby, love, baby,
freedom of love.
God above, God above,
God above, baby, come on!
Songs about freedom, yeah.
This song's about freedom,
yeah.
This song's about freedom,
yeah.
Freedom,
freedom,
yeah.
Freedom!